Aujourd'hui, on fait un petit spécial, comme j'ai dit au début de la réunion. On ne parlera pas de la suite de toute cette série-là. Aujourd'hui, on va particulièrement parler des fêtes juives. Mais en réalité, on dit des fêtes juives, mais ce n'est pas des fêtes juives. C'est les fêtes de l'Éternel. C'est pas les Juifs qui ont inventé cette fête-là. Il y a 7 moments de grande fête écrits dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, des choses que Dieu a déclarées des fêtes perpétuelles. Perpétuelles, ça veut dire c'est à perpète. Ça va être continuel, même dans le règne de 1000 ans, ces fêtes-là vont être encore célébrées par l'Éternel. Puis aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui les disent, qui suivent la Bible, ils oublient ces bouts-là, puis ils vont fêter les fêtes déclarées par l'Église catholique, plutôt que de fêter celles qui sont bibliques. Mais Dieu veut qu'on regarde ces fêtes à lui. C'est des fêtes perpétuelles, puis ça a un message pour nous, pas juste pour nous, pour tout le monde sur la planète, mais en particulièrement envers ceux qui les lisent puis les comprennent, parce que ça a un message pour nous. On parlait des fêtes perpétuelles de l'Éternel, déclarées dans l'Ancien Testament par Moïse. C'est écrit noir sur blanc, on ne peut pas se tromper. C'est des fêtes instaurées par l'Éternel qui annoncent des événements à venir. La Bible dit que les fêtes de Dieu, là, ils ont été données par Dieu, puis sont l'ombre des choses à venir. Il y avait un but pourquoi Dieu célébrait ces fêtes-là, telle date. Il y a un but, c'était prophétique. Dieu veut que non seulement qu'on les sache que ce qui s'est produit, mais qu'on se les rappelle parce qu'il y a un message qui est en cours d'actualité pour nous aujourd'hui. Dans Colossiens 2, 16, parce que même dans ce temps-là, là, hein, les gens étaient méprisés parce qu'ils suivaient les fêtes juives. Puis le monde, quand il disait, moi, je veux regarder, puis je veux savoir, puis si je suis intéressé, puis le monde se faisait juger par cela. Paul y écrit dans Colossiens que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Puis là, je veux vous peser sur un point dans le prochain verset. Louis Sagan, il a marqué, c'était l'ombre des choses à venir. Mais dans le texte original, quand tu vas voir le verbe être, il est au présent et non pas au passé. C'est l'ombre des choses à venir. Puis si vous, ceux qui vous disent, j'aimerais ça, voir ça, vous viendrez me voir, vous sortez les mots de la Bible strong, puis dans ce verset-là, il est au présent. C'est pas des fêtes qui étaient l'ombre des choses à venir en voulant dire qu'ils ne sont plus l'ombre. Non, c'est l'ombre des choses à venir, c'est au présent, sont en cours d'actualité, puis les thèmes que Dieu a donnés étaient d'actualité dans le temps de Jésus, puis sont en cours d'actualité dans le temps d'aujourd'hui. C'est l'ombre des choses à venir. C'est quelque chose que Dieu voulait nous dévoiler d'avance, parce que Dieu était pour faire des événements précis ces dates-là. Elles avaient un sens pour le peuple juif, parce que quand ils ont reçu ces fêtes-là, comme la fête de Pâques, ça avait le sens, comme vous disiez au début de la réunion, la fête de Pâques, c'était pour célébrer le Passover, que l'ange de l'Éternel a passé au-dessus du peuple juif, puis l'ange de l'Éternel n'a pas jugé le peuple juif. Tous ceux qui avaient mis le sang sur le cordage, le sang de l'agneau, ils étaient épargnés du jugement. Pâques veut dire « passer par-dessus ». En anglais, la fête, il l'appelle « Passover ». L'ange a passé par-dessus, puis il n'a pas tué ceux qui avaient le sang. Mais toutes les familles qui n'avaient pas mis le sang sont mortes. Fait que la fête de Pâques avait un sens pour le peuple juif. Les fêtes de l'Éternel avaient des sens pour le peuple juif, mais Dieu a annoncé ces fêtes-là comme l'ombre de choses à venir, puis il y a des choses précises qui se sont accomplies 2000 ans plus tard, puis il y en a d'autres précises qui vont s'accomplir 4000 ans plus tard. Vous allez comprendre dans quel idée que je vous dis ça. Puis Paul il dit, ne vous sentez pas jugé au sujet de ça, parce que ça a un sens prophétique, c'est l'ombre des choses à venir. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais toi, tu retournes à la loi, t'es judaïsant, ou bien ils vont dire, t'es légaliste. Non, c'est d'écouter ce que Dieu dit. Il y a un message là-dedans. Dieu veut nous parler, puis il y a déjà les fêtes du printemps, il y a eu des accomplissements prophétiques. C'était le début de la saison du temps de la grâce. Jésus est mort la journée de Pâques. Ça, je l'ai expliqué, puis je vais revenir là-dessus à tous les ans, les fêtes du printemps, puis les fêtes de l'automne. Puis j'en ai parlé des fêtes du printemps, qu'est-ce qu'il y a eu comme accomplissement prophétique, puis ça rouvrait le temps de la grâce que nous sommes présentement. Puis les fêtes d'automne, c'est des fêtes pour symboliser, pour nous parler à propos de la fin de la période de grâce, le retour de Jésus. Puis là, on va regarder, il y a des points qu'il faut regarder là-dedans, puis c'est bénissant, c'est édifiant, puis ça nous stimule dans notre foi. Ça avait un sens pour le peuple juif, mais d'autres sens prophétiques dans le temps de la grâce. Il y a les quatre premières fêtes du printemps qui est une figure du début de la période de la grâce, puis elles ont un sens prophétique. Il y avait la fête des pains sans levain, la fête de Pâques, les prémices, puis la Pentecôte. C'était le haut printemps. Tandis que là, il y a aussi quatre fêtes en automne qui annonce des événements ou des messages que Dieu a donnés pour la fin de la période de la grâce. Puis ça s'adresse à qui? À nous. On est là, là. Il y a des événements mondiaux qui sont en train de se mettre en place qui nous démontrent qu'on est à la fin. Combien de temps qu'il reste, je ne le sais pas, mais il y a une chose que je sais, je dois être vigilant, réveillé, en action pour le Seigneur, parce qu'il est à la veille de revenir. Tiens, amen là-dessus. Dans les quatre fêtes d'automne, je vais vous donner les titres. Il y a la fête des trompettes qui annonce une prise de conscience que les trompettes de l'Apocalypse sonneront. Il y a la fête de l'expiation, ça annonce notre devoir de nous repentir pour être prêts pour le retour du Seigneur. Puis la fête des tabernacles, mais dans cette période-là, ça durait 8 jours, la fête des tentes, des tabernacles ou des habitations, là. Ça annonce une prise de conscience de notre vie terrestre, puis en même temps, dans la même période, pour le même temps, c'est la fête des dernières récoltes, la fête de réjouissance à propos des bénédictions de Dieu. Fait que Dieu veut nous parler pour nous préparer pour son retour avec ces fêtes-là. Ces quatre dernières fêtes, lorsqu'elles sont comprises, elles sont destinées pour nous comme des avertissements à nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Parce que faut pas attendre qu'il soit là, pis qu'on le voit. Il est là. Ah, là, je vais me préparer. Il est trop tard. Faut que tu sois prêt avant. Pas juste accepter Jésus. Oui, accepter Jésus, faut que ça soit vraiment avant. Mais vigilant, réveillé, en train de servir le Seigneur. Vous allez voir, il y a des versets dans ce sens-là. Qu'est-il annoncé par les fêtes d'automne? Là, on va regarder les fêtes, mais aujourd'hui, on va regarder juste la première. Il va y avoir une suite la semaine prochaine, puis peut-être dans l'autre semaine. Puis cette fête-là, c'est la fête des trompettes. C'est la fête appelée Rock Hashana. Le mot Rock Hashana, c'était rajouté par le peuple juif, puis ils ont changé le sens de la fête. Eux autres, ils ont mis ça comme étant la fête du début de la nouvelle année. Parce que, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas, mais Dieu avait déjà dit que le début de l'année, c'était au mois de Nissan, le premier de Nissan, c'était dans le mois de la fête de Pâques, au printemps. Dieu l'a déclaré que le premier de ce mois-là, le mois de Nissan, ou le mois des épis, c'était le premier jour de l'an. Mais eux autres, dans les temps, ils ont changé ça, puis ils ont appelé ça le jour de l'an, en appelant ça Rock Hashana, qui veut dire la tête ou début de l'année. Mais c'est aussi appelé le jour d'acclamation, des cris, puis aussi trompette. Puis vous allez voir pourquoi qu'on dit, puis nous c'est plus cette partie-là qui est biblique, qui est écrite dans le texte, qu'on veut regarder. C'est que cette journée-là, ça a tombé entre le 3 et le 4 octobre. Fait qu'on est le 5 aujourd'hui, ça a tombé avant-hier puis hier. C'était la fête des trompettes qui dure une journée. Dans Lévitique 23, le verset 24, parle aux enfants d'Israël et dit, Le septième mois, puis là, on ne parle pas dans les mois romains, là, on parle dans le calendrier lunaire, dans le calendrier des Juifs. Ça tombe à cet instant-ci de l'année, comme je vous disais, ce mois-là, mais les mois sont pas en même temps que nos mois. Fait que des fois, ça peut tomber dans le mois de septembre, des fois, ça peut tomber dans le mois d'octobre. À chaque année, ça change. Mais ça tombait, cette date-là, là, le septième mois, le premier jour du mois, tombait entre le 4 et le 5. Vous aurez un jour de repos, c'est un jour de sabbat qui était mis là, publié au son des trompettes. C'est là qu'est le sens du mot jour d'acclamation. Dieu, il dit qu'il va y avoir des sons de trompettes. Ou, vous allez voir, parce que je vais vous sortir le mot qui est original tantôt, c'est des cris. Ça proclame le début de cette journée de repos-là qui était, pour nous autres, vous allez voir que c'est les fêtes d'automne, d'après la date où on est présentement, puis vous allez voir quel message que ça nous donne à nous. Puis là, il dit, c'est une sainte convocation, fait que c'est un rendez-vous saint que Dieu fait avec tout le peuple d'Israël, tout le monde embarquait dans cette fête-là. Là, il dit, vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est un sabbat. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Puis cette fête-là est répétée aussi dans Nombre 29, le verset 1. Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Dieu, vraiment, il voulait que le monde saisisse que là, la trompette a une importance. C'est pour ça qu'il appelle ça un jour d'acclamation, un jour de cri, un jour de bruit, un jour de trompette. Parce que le mot original dans Louis II, ben dans Strong, parce que c'est le mot Strong, c'est le mot original en hébreu, pour le mot trompette, là, son de la trompette, pas juste trompette, son, c'est le bruit de trompette, mais il y a rien qu'un mot en hébreu. Puis ce mot-là, ça veut dire son éclatant avec éclat, objet d'allégresse, publié au son des trompettes retentissantes, des trompettes, des cris, faire éclater la joie, des chants d'allégresse. Tout ça, là, ce mot-là veut dire tous ces mots-là. Fait que, c'est-tu directement une trompette ou des cris humains ou les deux? C'est à libre. Ça veut dire tout ça. C'est pour ça qu'ils appellent ça des acclamations. Cette fête-là, ça fait du bruit. C'est un bruit qui était pour un rassemblement, pour une fête précieuse. Puis ça, dans les descriptions des différents sens, dans le dictionnaire biblique, dans le dictionnaire du mot, ce mot-là, c'est des alarmes, un signal. Parce que quand il y avait une armée étrangère qui venait pour attaquer, c'était aussi au son des trompettes qui avertissait. Il prenait un corps, une corne d'animaux, puis là, il avertissait qu'il y a des ennemis qui s'en venaient. Fait que ce bruit-là, c'est Dieu voulait que tout le monde se réveille, tout le monde soit prêt, tout le monde soit dans l'action de ce qu'il devait faire, tout dépendant à quel moment que c'était sonné, voyez-vous. C'est des cris, des hurlements, ou des cris de guerre, ou des cris d'alarme, ou des cris de joie. C'est un alarme de guerre, des cris de guerre, des cris de bataille. Parce que ça réveille les autres, des soldats qui dormaient. Tout le monde se lève, puis tout le monde rentre dans l'action. Ça peut être des cris de joie aussi parce qu'on se réjouit. Dans la parole de Dieu, ce qui est super, c'est comment Dieu veut faire des parallèles puis nous réexplique des affaires. Hein. Pour l'enlèvement, c'est aussi écrit que ça va être un cri puis ça va être un son de trompette. Dans 1 Thessaloniciens 4:16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Si on voit que c'est un cri d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, on voit la trompette, on voit la voix qui est un cri. Ça peut être un cri de guerre, ça peut être un cri de réjouissance, mais il y a un archange qui va lâcher un cri, puis il va avoir un son de trompette, puis ça c'est l'enlèvement, le retour de Jésus sur la terre. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, puis les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, si on lit le texte, nous, les vivants, nous serons enlevés. Fait que c'est tôt à la voix forte d'un archange. Un archange, c'est un chef d'ange. Parce qu'il y a des anges, mais il y a des chefs d'anges aussi. Arc veut dire chef, ange, arc-ange. Archange, ça veut dire un chef d'ange qui va lâcher un cri. Michel, ça en est un. Puis c'était le plus fort de la gang, c'est lui que tu vois dans l'Apocalypse, que c'est peut-être lui qui va lâcher le cri. Puis on le voit dans l'Apocalypse qui est un chef qui combat pour nous, les chrétiens. Puis c'est lui qui va lier Satan, puis qui va l'enfermer pour les 1000 ans. Il est plus fort que Satan, puis son armée avec Michel est plus forte que tous les démons. Fait qu'on n'a pas besoin de s'en faire, les plus forts sont sur notre bord. Mais le point là-dedans qui est extraordinaire, c'est comment Dieu voulait nous donner un message prophétique que la fête des trompettes annonce le retour de Jésus. C'est un signal d'alarme. C'est un cri. Parce qu'il y a un cri de guerre ou un cri de joie. Ça fait penser au verset qui nous parle du cri pour réveiller les chrétiens. Dans Matthieu 25, le verset 6 et 7, quand ça nous parle des 10 vierges, ça nous dit que les 10 se sont endormis. Mais au verset 6, ça dit « Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. » Ça veut dire que le cri, c'est dans le but de réveiller. Parce que les chrétiens doivent prendre conscience qu'ils sont en train de dormir, qu'ils ont besoin de revenir en action, dans prière, dans louange, d'assister à leur réunion, puis tu sais, puis évangéliser, servir dans l'Église, servir les frères. Tout ça, là, c'est le travail dans le royaume terrestre, le royaume de Dieu terrestre. C'est notre travail, nos missions, puis que tous les chrétiens doivent être en train d'être dans l'action. Mais ils s'étaient tous endormis, puis on a souvent besoin que quelqu'un nous lâche un whack pour nous dire « Réveillez-vous! » Y a-t-il du monde qui dort ici? C'est sûr que quelqu'un qui dort, il n'est pas capable de lever la main. Il dort. Mais il ne veut pas lever la main parce qu'il est supposé d'être réveillé puis comprendre qu'il ne faut pas qu'il lève la main. Non, mais spirituellement, est-ce qu'on est capable de s'avouer? Je suis dans l'action pour le Seigneur. Je suis en communion avec l'Esprit de Dieu aussi. Moi, je me suis endormi. Peut-être qu'on s'est refroidi. Peut-être qu'on ne prie plus. Peut-être qu'on n'est plus intéressé d'aller à l'Église. Peut-être qu'on force tout le temps pour tout faire. On a besoin d'être réveillé puis d'entendre le cri qu'il faut se préparer parce qu'on est presque à la fin. Faut pas que ce jour-là vienne à l'improviste. Vous savez ce que ça veut dire, à l'improviste, le jour du retour du Seigneur? Faut pas que ça vienne une journée que je suis pas prête, puis que je sois trouvé confus et éloigné de lui. C'est un autre verset qui dit ça.
Les derniers milles sont toujours plus...
Essoufflant, fatigant, pesant.
Comme la course.
Ben oui, comme la course, on est essoufflé. On est dans les derniers milles, frères et sœurs. Puis si ça fait 40 ans que vous courez, lâchez pas de courir. Puis si vous êtes assoupi, relevez-vous, on va vous aider à vous porter. Le but des réunions, c'est ça. On est là pour s'encourager, puis s'entraider. On supporte, puis on continue à courir ensemble en gardant la foi, puis en étant en action pour le Seigneur. Nous savons que dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans l'Apocalypse, qu'il y en a 7 trompettes. Puis ces trompettes-là vont arriver, puis c'est des événements qui vont se dérouler sur la terre. Puis on le dit souvent, ça sera pas beau. Ça va sonner comme des alarmes, puis ce sont des temps de grande tribulation. C'est des signes de Dieu annonçant le retour du Seigneur à la dernière trompette. Lorsque la dernière trompette sonnera, ce sera un tournant pour notre planète. Là, il va être trop tard pour commencer à se bouger. C'est avant que ça sonne, les trompettes, qu'il faut déjà se préparer, qu'il faut déjà être dans l'action. afin d'être trouvé debout lorsque Jésus reviendra. Puis il va en sonner sept qu'on a vu, des trompettes qui sont des cris d'avertissement. C'est une période terrible qui va se dérouler sur la terre. Des catastrophes se manifesteront sur la terre et dans le ciel, juste avant son retour, comme Jésus l'a annoncé dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, puis dans l'Apocalypse au chapitre 8. Jésus nous a avertis afin qu'on reste vigilant. Vigilant, là, c'est le contraire de dormir. C'est de réveiller et en action. Être des chrétiens en action, c'est du monde qui sont en train de servir le Seigneur. Être en train de servir le Seigneur, c'est pas juste aller à l'église le samedi ou le dimanche ou le mercredi. C'est une des actions, mais c'est pas la seule action. J'espère que c'est pas la seule action que vous faites dans le Seigneur. Si vous savez pas dans quoi ce que le Seigneur vous a appelé, demandez-y. Dites-y que vous êtes disponible. Dites-y que vous voulez servir. Dites-y que vous voulez être dans son action. Dites-y que vous voulez trouver votre place. Vous avez, tout le monde a reçu des dons. Tout le monde a reçu au moins un don. Tu as reçu le don du Saint-Esprit qui contient tous les dons dedans. Fait que c'est sûr que Dieu peut agir à travers de chacun comme qu'il le veut. Puis on a juste à être disponible, mais il faut être en action. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans l'édification de disciples, que ce soit même dans le ménage, dans le service. Peu importe les dons. C'est de s'impliquer à servir le Seigneur. Voir dans notre esprit que travailler, je vais travailler, je sers le Seigneur à mon travail, puis à toutes les occasions, si on a une occasion de prier pour quelque chose ou parler du Seigneur, c'est des occasions qu'on prend. Mais il y en a tout le long de notre vie des choses que Dieu va mettre. Il a préparé des œuvres pour chacun de nous, que ça dit. Il s'agit juste d'être vigilant, être en action. Jésus nous a avertis que nous devons rester vigilants puis se rappeler qu'il viendra des temps difficiles, des temps durs, mais qu'on doit rester ferme. Faut pas se laisser ébranler ou partir en courant puis lâcher le Seigneur parce qu'on a trouvé une nouvelle blonde ou on a trouvé de quoi là, qui nous intéresse ailleurs. Dans Marc 13, 33, c'est Jésus qui parle. Prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Sauf qu'il a dit, je vais faire des trompettes, je vais mettre des avertissements. Puis là, vous allez le voir dans le verset. Quand vous verrez ces choses-là arriver, il y a de quoi là qui est supposé nous dire, réveille-toi là. Mais même encore, je vous dis pas d'attendre que ça arrive pour vous réveiller, parce que vous pouvez mourir avant que ça arrive. Faut être dans l'action tout le temps, déjà aujourd'hui. Amen. Hein? Ouais, il s'en passe assez pour être déjà réveillé si on est attentif à tout ce qui se produit. C'est sûr, si on ne regarde rien là-dessus, Puis là, au verset 34, il explique, vu qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, il laisse sa maison, il remet l'autorité à ses serviteurs, il indique à chacun sa tâche, puis il ordonne au potier de veiller, au portier de veiller. Puis là, il nous dit à tous, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou le milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Fête des trompettes, c'est une fête pour se rappeler, faut toujours que je sois réveillé. Parce que c'est un cri, c'est un son de trompette dans le but qu'on soit vigilant, puis le monde devait se dire, c'est une sainte convocation, c'est un jour consacré à Dieu, un jour de repos, un sabbat que je dois prendre du temps avec le Seigneur pour être en communion avec lui, pour garder ma relation fraîche avec le Seigneur. Craignez qu'il ne vous trouve endormi et à son arrivée soudaine. Parce que Jésus va revenir, bon, oui, il donne des sons, mais il n'a pas dit à date. Puis il y en a qui se sont aventurés, puis ils disaient des dates, puis ils sont trompés, toute la gang. Il n'y a pas de date dans la Bible, il y a juste des événements. Il dit, quand vous verrez ces choses-là arriver. Et ce que je dis, Jésus dit ça, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez, ça veut dire, soyez réveillés, spirituellement parlant. Ça ne veut pas dire, il faut passer la nuit debout. Réveillez spirituellement. Toujours dans l'Esprit de Dieu, vouloir servir le Seigneur, aimer les chrétiens, puis, tu sais, mettre en pratique ce que Jésus nous demande. Les avertissements nous permettent de rester sur nos gardes. Dans 2 Pierre 3:17, ça dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. » On est-tu avertis ou on ne l'est pas? « Vous donc, qui vous êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. » De peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Parce qu'un impie, c'est quelqu'un qui ne cherche pas Dieu, qui ne prie pas. Puis il y en a plein autour de nous autres. Il y en a plus qu'on ne pense. Du monde qui ne prie pas, puis qui ne sont pas intéressés à chercher Dieu. Puis là, un chrétien peut être entraîné dans leur égarement. Puis commencer à croire le mensonge. Puis être troublé, puis de sortir du chemin du Seigneur. Il dit, « Et vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Déchoir de sa fermeté, c'est être déchu de ta fermeté. T'as tombé en bas de ta fermeté, t'es rendu mou spirituellement. T'es rendu, avant t'étais ferme, puis là t'es rendu, oh, « peut-être, oh, puis là on suit l'égarement des impies. » Parce qu'on est rendu mou, puis on n'a plus de colonne, on n'est plus capable de s'affermer dans la vérité, puis de proclamer les vraies affaires, puis rester ferme dans ces choses-là. Oui, à tout vent de doctrine. Cette fête est un avertissement prophétique, puis est donné dans le but qu'on se prépare. Fait que ça devra déjà, vu qu'elle a eu lieu hier, nous stimuler quand on entend ça. Hey, moi, il faut que je marche pour le Seigneur. Je veux rester ferme avec toi, Seigneur. Prends ma vie, conduis-moi, réveille-moi, puis montre-moi ce que je dois être en train de faire. Parce que je veux pas être trouvé à rien faire, endormi ou même éloigné, perdu dans l'égarement des impies, quand que Jésus va revenir. Parce que là, ça va être l'être. Parce qu'il va y avoir des chrétiens, la parabole des 10 vierges, là, il n'y a que la moitié qui sont rentrées. Les autres sont toutes restées là. Ils ont voulu rentrer par après, puis c'est un non. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, dans le prochain verset, levez vos têtes, notre délivrance approche. Les signes, les trompettes, les choses que Dieu met, là, qui nous montrent, « Hey, c'est en train de se faire, hey, c'est en train de se faire. » Il dit, quand vous voyez des choses arriver, là, redressez votre tête. Des fois, les chrétiens marchent la tête par en bas, c'est un dingue. Parce qu'on a quasiment, il y en a qui sont quasiment gênés d'affirmer ce qu'on est en Jésus. Le monde risque des chrétiens, puis on pogne un dent. Voyons donc, contraire, on devrait être fiers de ce qu'on est puis ce qu'on a. On est fiers de ce qu'on est puis ce qu'on a. On a tout en Jésus. On a tout en Jésus, puis on doit être fiers de ce que nous sommes, des enfants de Dieu qui marchent vers la cité céleste. C'est rien qu'une question de temps qu'on soit rendu là. Dans Luc 21-27, alors là, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. C'est pas des farces là, ça c'est quasiment un film de science-fiction. On est tellement habitué de voir des films de science-fiction avec des effets spéciaux qu'on pense pas que ça pourrait être des choses réelles de voir quelque chose qui s'est jamais vu. Comment est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu Jésus avec des milliards d'anges dans le ciel qui éclaire le ciel avec tous les êtres saints, les chrétiens morts, ressuscités. Qui a déjà vu ça, personne? Puis, mec, ça arrive, nous, on va être dans « Wow! Pang! » On se ramasse avec eux autres en un instant et en un clin d'œil. Mais les autres, le dentier va tomber à terre. Ils vont avoir un méchant d'âme, c'est pas des farces, puis ils sont perdus. Puis là, ça dit dans un verset dans l'Apocalypse qui dit, « Malheur à nous! L'agneau qui arrive avec sa colère, il est en colère. Qui peut subsister? » Ils vont se cacher des montagnes, puis des rochers, des grottes, pensant échapper à la colère de Dieu. Ça va arriver, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Puis là, dans Matthieu, le verset suivant, quand ces choses commenceront à arriver, là, on est dans Luc 21, il parlait de ce qui doit arriver avant son retour. Quand les choses commencent à arriver, ça, c'est un verset qui est parallèle avec Matthieu 24. Il annonce des choses dans les temps, puis avant le retour de Jésus. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Fait que les fléaux, les catastrophes, les signes qui arrivent, qui sont déjà là pour bien des signes, puis il y en a d'autres qui doivent s'accomplir, on le sait que Jésus revient très bientôt. Faut être prête. Faut être dans l'action. Faut arrêter de regarder la terre comme Saint-Dame, puis être fier de ce que nous sommes, puis pas se laisser intimider. Notre délivrance approche. Dans Matthieu, lui est plus précis à ce niveau-là. Il dit, aussitôt après la détresse, puis là, c'est les trompettes qu'il va avoir dans l'Apocalypse, ces détresses-là. Jésus reviendra pour nous chercher. C'est ce que ça dit dans Matthieu 24, au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, fait qu'il va y avoir des détresses sur la terre, il dit que le monde va mourir de peur dans l'attente qui survient sur la terre, parce que la puissance des cieux va être ébranlée, puis il va y avoir des angoisses parmi les nations ils ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ça, cette angoisse-là est déjà là au niveau de la fonte des glaciers, puis au niveau de la mer. Elle est déjà là, cette angoisse-là. Fait qu'il y a déjà une partie de cette prophétie-là d'accomplie. Il en reste un autre, puis on va le voir, les signes dans le ciel, puis des... Quand il dit qu'il va voir les étoiles tomber du ciel, là, il parle là-dessus de bombes nucléaires. Il savait pas c'était quoi dans ce temps-là. Mais il a vu un paquet d'affaires tomber puis détruire des parties de la planète. S'il parle là-dessus de bombes nucléaires, on est-tu proche que ça arrive? Il y en a eu deux de ces étoiles-là qui sont tombées au Japon, là. Hiroshima puis Nagasaki. Ça tombe, tu dois arriver, bang! La ville est décimée, elle n'existe plus. Le monde qu'il y avait là, ils sont tous morts. Puis il y a encore des radiations, là, puis encore toutes sortes d'affaires, des conséquences terribles sur la planète. Imaginez une pluie de ça. Ça va être laid. C'est des signes avant le retour de Jésus. Fait qu'on pourrait dire quasiment que c'est déjà accompli avec deux missiles qu'il y a eu dans ce temps-là, là, après 50 ans. Puis va-tu en avoir d'autres, là? J'espère que non, mais la Bible parle dans les trompettes la destruction du un tiers de la planète qui va mourir. Un tiers. Dans les sceaux, il y a un quart, puis dans les trompettes, il y en a un tiers de la planète. Si on est 8 milliards à cette époque-là, il peut y avoir 2,5 milliards de personnes qui vont mourir dans cette catastrophe-là qu'il va y avoir dans cette trompette-là. Il va en avoir qui vont mourir par de faim là-dedans, de maladies, de toutes sortes de conséquences dues à ce qu'il va avoir. Puis c'est des événements que Dieu permet en sonnant de la trompette. Il déclare que ça doit, qu'il laisse aller les affaires, puis les hommes ou le diable ou Dieu lui-même. En tout cas, il va avoir des catastrophes sur la planète. Mais je continue avec l'idée que je suis en train de dire que dans Matthieu, aussitôt après ces jours de détresse, que le mot que là, détresse, c'est tribulation. On parle de la grande tribulation, c'est le mot tribulation. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil va s'obscurcir, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. C'est ça que je vous disais, les étoiles qui tombent du ciel. En réalité, ça ne peut pas être une vraie étoile au sens propre, parce que les étoiles, l'étoile la plus proche est Alpha du Centaure, est à 3 années-lumière d'ici. À vitesse de la lumière, ça prendra 3 ans, puis il n'y a rien qui roule à la vitesse de la lumière. C'est impossible que ça soit une vraie étoile. Il a vu de quoi dans une vision, puis c'est-tu des météorites, c'est-tu des bombes nucléaires? On ne le sait pas, mais il ne savait pas lui non plus. Il a décrit cela comme cela. Les étoiles vont tomber du ciel. Fait que ça, c'est des événements qui vont être après les jours de détresse, mais avant le retour de Jésus. Il dit, les puissances des cieux seront ébranlées. Fait que ce que tu vois, là, dans le ciel, puis tout va être un changement, là. Déjà, on dit qu'il y a un changement climatique, là. Mais il peut avoir pire que ça encore. C'est pas tout, là. Mais quand le soleil envoie ses rayons, là, des rayons sont rendus avec des... Il y a des radiations là-dedans, puis il y a toutes sortes... Je sais pas si vous avez suivi ça, là, ces histoires-là. Ça le fait déjà, puis ça provoque des champs magnétiques sur la planète. Oui, on a un genre de bouclier naturel que Dieu a créé avec la ceinture de Van Allen qu'on a au-dessus de la planète. On a l'attraction de la Lune qui fait une attraction, une gravité qui fait attirer des affaires. Oui, dans le système que Dieu a créé, le système solaire, il y a des choses qui sont là pour protéger la planète, mais qui ne protégera plus la planète dans les temps qui vont être rendus là. Il y a même un verset dans l'Ancien Testament qui parle « La terre craque et elle titube comme un homme ivre. » Ça veut dire qu'elle va perdre son axe. Elle a une rotation bien précise. Elle va venir tout croche, là, puis elle va s'en aller en s'en allant tout croche comme un homme ivre. Où est-ce qu'elle va se ramasser? Puis Jésus a dit, s'il ne sera pas venu, là, il n'y aura plus personne de sauver. Ça sera une destruction complète de la planète et de tous ses habitants. Jésus revient à cause des prières de ses élus. Il va abréger ses jours. Il dit, après avoir tout vu tout ça, que le ciel s'obscurcit, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel, la puissance des cieux sera ébranlée, puis les chrétiens sont tous là. Alors, après tout ça, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, puis toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, après avoir vu, puis c'est pour ça que l'autre verset dit, quand vous verrez ces choses, relevez vos têtes, redressez-vous, mais là, il dit ça dans Matthieu. Après ça, quand il le voit, tout le monde le voit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, puis il va rassembler ses élus des 80, c'est nous.
Amen.
Fait que des enlèvements avant les troubles sur la terre, ça n'existe pas. C'est très clair que on va en vivre. Puis on va être encore vivant. Parce qu'il y a un enlèvement. Sinon, il n'y aura pas d'enlèvement, il n'y aura plus personne, là, on ne sera pas là. Ça veut dire qu'il va être. Il dit deux dans un champ, un va être pris, l'autre laissé. Deux à une meule, un va être pris, l'autre va être laissé. Deux dans un lit. Ça veut dire que tu peux être à quelque part. Il y en a un, il y a celui qui était avec le Seigneur, il part, puis celui qui ne l'est pas, mais il reste là. Fait qu'il va y avoir des pays que ça va être horrible ce qui va arriver là, puis il y a d'autres pays qu'il va y avoir du monde encore en train de travailler, puis en train de faire ce qu'il y a à faire, puis à dormir dans le lit. En Ukraine, là, il y a du monde, des chrétiens comme nous, là, 100% comme nous, instruits comme nous, tout le kit, qui ont même plus de maison, place pour dormir. Ils ont trouvé d'aller dormir ailleurs. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu tout leur bien, ils ont perdu leur job. Ils ont tout perdu parce que tout était détruit par la folie des hommes. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas un de ce pays-là que c'est de même. Il y en a d'autres. Là. En Syrie, là, c'est la même affaire pour les chrétiens. Il y en a des, au-dessus de 100 000 chrétiens comme nous qui ont été tués. L'armée américaine a essayé d'en enlever une coupe avec les hélicoptères, puis il y en a qui ont resté là, puis il y en a d'autres qui étaient déjà morts. C'était des chrétiens dans le monde qui se font persécuter, il y en a plein qui passent des mauvais quarts d'heure. Mais l'important, il dit, tu vas voir des choses arriver, redresse ta tête, regarde dans l'air, sois fier d'être chrétien, puis si t'as mourir, t'es prêt à mourir pour le Seigneur, puis si tu continues à vivre, tu vis pour le Seigneur. Amen. Mais soyons réveillés spirituellement. Continuons à servir le Seigneur, peu importe ce qui arrive. Les trompettes, c'est un son d'avertissement pour les chrétiens. La Bible nous parle de Noé. Il avait été averti. Puis qu'a-t-il fait? Noé, là, il en savait bien moins que nous, au point de vue des prophéties, puis des bénédictions de Dieu, puis ça, le plan de Dieu. Il en savait bien moins que nous. Même pas un centième de ce qu'on sait. Mais il y a une chose qu'il a su, il a été averti que Dieu était pour détruire la planète. C'est une prophétie, celle-là, qu'avait reçue Noé. Il a cru à cette prophétie-là. On ne s'en dit pas comment est-ce qu'il l'a eu, mais Dieu lui a parlé. C'est-tu direct à lui ou il a passé par un ange ou passé par un humain, mais il a reçu le message que Dieu était pour tout détruire. Puis il a dit, prépare-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé. Sinon, il était mort. Il était foutu. Lui et sa famille. Il s'est préparé. Il a écouté la prophétie. C'est par la foi, dans Hébreux 11:7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on voyait pas encore. Personne n'avait jamais vu ça de la pluie. Ça avait même pas c'était quoi mouiller. Dans ce temps-là, il mouillait pas. Il y avait juste une rosée qui tombait. Fait que Dieu, il a dit, il va se mettre à mouiller, là. Puis là, la pluie va tomber, puis la plus haute montagne va être recouverte. La plus haute montagne de la terre a été recouverte. Puis Dieu a pas rien fait de la pluie, il a fait aussi que les sources d'eau de la terre sont aussi mises de la partie pour remplir, inonder. Puis il a allé l'eau au-dessus de toutes les montagnes. Lui, il savait rien. Pour lui, c'était de l'imaginaire. Ça n'avait même pas ses coins, un film de science-fiction. Il n'avait jamais vu. L'imagination, nous autres, on la pousse en imaginant des choses qui n'existent pas. Lui, il voyait, il ne connaissait rien de tout ça. Là. Il a cru Dieu tout de suite, puis il s'y met à l'œuvre. Il dit, saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est cette crainte respectueuse-là qu'on doit avoir. Croire ce que Dieu a dit. Croire ce qui est écrit. Puis faire ce qu'on a à faire. Parce que le jour où Jésus va venir nous chercher, peut-être avant l'enlèvement, faut être déjà dans l'action. Craignez qu'il vous ne trouve endormi. C'est là. Aujourd'hui même, si on meurt d'une crise cardiaque, on n'a pas eu besoin d'attendre à l'enlèvement. Fallait être prêt aujourd'hui. Faut être prêt à chaque jour. Servir le Seigneur, être bouillant. J'entends pas des amen souvent. Des fois, on peut dire, oh, ça me parle pas. Oh, ça nous passe au-dessus de la tête. Mais faut que ça nous parle, là. C'est quelque chose. Ce que je vous dis là, c'est comme si Dieu nous dit de nous préparer. On ne sait pas, il y a peut-être quelqu'un dans le groupe qui va partir, là, qui va mourir. Il fallait qu'on entende ça. Une crainte respectueuse, c'est qu'on craint Dieu, puis on craint son message, puis on croit ce qu'il a dit, puis on respecte ça, puis on le fait. Parce qu'il nous l'a dit. C'était pas des paroles en l'air. Saisi d'une crainte respectueuse, il a construit l'arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, puis il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Comment est-ce qu'on peut prouver à Dieu qu'on a la foi? C'est pas en disant n'importe quoi. C'est en mettant en pratique, en prenant au mot ce que Dieu a déclaré, puis en faisant ce qu'on a à faire. C'est de même qu'on démontre qu'on a la foi. L'apôtre Paul a spécifié qu'à la dernière trompette, le Seigneur descendra du ciel, les morts ressusciteront et nous serons enlevés avec eux transformé. Je finis avec ce dernier verset-là, 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, puis les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Amen. Ça, c'est l'espérance des chrétiens. Qu'on meure avant ou qu'on soit là debout à l'enlèvement, on va tous se retrouver là, dans un corps incorruptible, changé en quelque chose de parfait, qui ne péchera plus. Puis on va être béni, bien, en santé, dans la joie éternelle avec le Seigneur. Amen. On va faire une prière pour ceux qui écoutent. Il y a des gens qui écoutent sur Internet aussi. Puis Dieu vous invite. Dieu vous appelle. Puis c'est une question, c'est sûr que c'est individuel, là, mais c'est une question de vie ou de mort éternelle. Est-ce qu'on veut être sauvé? Est-ce qu'on veut être debout dans la présence de Dieu pour l'éternité? Il y a une seule manière. Il faut être chrétien, mais un chrétien bouillant pour le Seigneur. Faites cette prière avec moi pour vous engager à suivre le Seigneur. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu vous a entendu. Dieu, aussitôt que quelqu'un veut se repentir, Dieu te pardonne. Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. T'es sincère, t'as fait la prière pour t'engager devant le Seigneur. Crois que tu es pardonné, crois que tu es sauvé, puis il y a une nouvelle vie qui commence pour toi. Marche avec le Seigneur, sers le Seigneur. Va dans une église qui prêche la parole de Dieu, puis un jour, on va se retrouver dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen.